bon pour la santé.
On aime de manière chronique notre prochaine invitée. Elle a une parole libre, curieuse, engagée, cool, presque queer. On reçoit aujourd'hui la chroniqueuse et auteure Judith Lussier. Vous l'avez vue dans Urbania ou Métro pendant plusieurs années. Elle s'est commise avec plusieurs essais. Le plus récent s'intitule « L'aide à la procréation au Québec ». Vous avez été surpris avec les épisodes irrévérencieux qui font un genre d'éducation à l'inclusion. Les Brutes, produits par Télé-Québec. Vous la suiviez maintenant à l'émission « C'est juste du web ». En 2017, celle qui était juste là, à une véritable web influence, tombe au combat des chats après avoir subi les affres d'une armée de trolls. Ces personnes qui harcèlent sur les réseaux sociaux mais peuvent aussi déverser de leur violence ce qui mine nos quotidiens. La chroniqueuse a dû s'en remettre en se coupant des réseaux sociaux pour se protéger. On reçoit cette femme qui prend toujours une parole féministe et d'aujourd'hui pour notre santé collective, Judith Lussier.
Ici Catherine Bourderon avec le docteur Baruel.
Bonjour.
On plonge dans l'univers de Judith Lussier. Bonjour Judith.
Bonjour, je suis vraiment impressionnée par la présentation avec l'accent français. Là, ça rendait ça grave. Là. Je me sens vraiment plus importante que ce que je le suis en réalité.
C'est un rééquilibrage en fait.
Oui, merci.
On va faire une émission aujourd'hui à partir de vos préoccupations santé. On accueillera pour ce faire les chroniqueuses et invités Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité pour manger même déprimé, Pamela Dumont, comédienne et créatrice, organisatrice en chef de Mes Poils, le mois où on est critique sur le rasage, et Marie-Ève Coton, ethnopsychiatre, Stéphanie Taillon et Catherine Kess, qui sont respectivement directrice générale et agente de communication de l'organisme Équilibre. On va parler entre autres de la journée sans maquillage.
Bonjour Judith Lussier, c'est très gentil d'avoir accepté de venir parmi nous.
Oui, ça fait vraiment plaisir.
Et quand on s'intéresse un peu à vous, il y a plein de sujets qui nous interpellent. Bon, première des choses, vous êtes en train d'écrire un livre.
Oui, absolument, sur les Social Justice Warriors. C'est vraiment un phénomène qui m'intéresse. C'est un phénomène aussi qui était au cœur de mon travail comme chroniqueuse parce que, bon, des fois, j'étais traitée moi-même de social justice warrior et des fois, je faisais affaire avec des social justice warriors qui trouvaient que j'allais pas assez loin dans mes convictions, que je négligeais une partie de leur cause. Donc, je trouvais ce phénomène-là vraiment intéressant et je voulais l'expliquer à ma mère.
En français? Je sais qu'on a un accent français, mais en français, le titre du livre.
Ça va s'appeler « Les guerriers modernes ».
OK.
C'est le titre en ce moment. Puis les Social Justice Warriors, pour expliquer rapidement, là, c'est vraiment les militants sur les réseaux sociaux qui... c'est une caricature. C'est une caricature de gens qui sont toujours indignés. Mais moi, j'avais envie de gratter derrière cette caricature-là puis de voir... Moi, il y a des gens pour qui je suis une social justice warrior, mais les convictions pour lesquelles je pouvais m'époumoner sur Internet étaient vraiment réelles. Puis je me suis prise au combat, puis je suis tombée. Parce que ça venait me chercher pour de vrai. C'était vraiment important pour moi, ces causes-là.
C'est sûr, parce que vous faites aussi, à Radio-Canada, vous êtes une spécialiste des réseaux sociaux.
En fait, je suis collaboratrice à l'émission C'est juste du web à RTV. Je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux à Radio-Canada.
Mais je vous donne le titre.
C'est bon, c'est correct.
Dans cette émission, parce qu'on vous entend parler des réseaux sociaux et les trolls et un phénomène qui vous a vraiment tenu à cœur.
Rentrez dedans,
on va en parler tout le long de l'émission.
Oui.
C'est quoi un troll pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas habitués à ce langage-là?
C'est quelqu'un qui prend plaisir à défier dans ses opinions quelqu'un sur Internet, mais vraiment plus pour le plaisir de taquiner ou de... Des fois, je dis taquiner, c'est trop gentil comme mot, en fait. Plus pour le plaisir d'agacer, de frustrer quelqu'un sur Internet que pour vraiment faire avancer un débat. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait une dépression en raison des réseaux sociaux, mais ça serait réducteur de dire que c'est à cause des trolls, mais je sais que c'est ce que les gens ont beaucoup retenu, puis c'est vrai que c'est ça le problème de société, parce que le problème de société, c'est pas mon enfance terrible qui m'a rendue dépressive. je sais pas si vous comprenez.
Non, on comprend que ça a été...
L'enjeu de société, c'est le troll. C'est le comportement sur Internet. Il faut qu'on apprenne tous ensemble là, à dialoguer sur Internet sans venir à l'agressivité, à la violence.
Et ça vous a vraiment plongé dans une dépression qui a dû... Est-ce que vous êtes encore en train de vous remettre de ce passage à vide?
Je suis complètement remise.
Oui?
Je peux vous dire aujourd'hui, je suis complètement remise sur pied. Ça a pris du temps. Et je dirais, quand j'ai lâché ma chronique, ça faisait déjà un moment que je pense que j'étais en dépression. Puis c'était, bon, l'agressivité sur Internet, mais aussi la colère qui m'habitait là, par rapport aux enjeux que j'abordais dans mes chroniques, comme le féminisme. Puis dans un... On s'inscrit dans une... à contre-courant d'une culture quand on mène des combats comme ça, comme le féminisme ou le combat pour la diversité sexuelle et de genre, où on est face à des obstacles, des gens qui sont pas d'accord avec nous, mais face à une culture aussi qui est foncièrement réfractaire à nos idées. Ça a l'air facile de se dire féministe en 2018, mais il y a toutes sortes d'enjeux où, pour plusieurs personnes, on va trop loin, où on est gossante, où on est fatigante avec nos idées. Puis c'est pas dans des enjeux féministes mainstream comme l'égalité homme-femme. Ça, tout le monde est d'accord. Mais quand on vient à pointer du doigt, bon, ben dans telle émission, là, on a remarqué... Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont invitées. Puis ça fatigue les gens parce qu'ils disent « Ouais, mais moi, nous, on fait de notre mieux, puis nanana. » Donc ça, être à contre-courant comme ça, puis fatiguer un peu les gens...
Oui, c'est ça. J'entends bien qu'il y a plusieurs enjeux dans ce qui vous a interpellé, mais c'est quand même... Vous êtes quand même très courageuse d'avoir dénoncé l'impact... des réseaux sociaux sur la santé mentale. Vous êtes une des précurseurs. C'est quand même... Ça peut plonger jusqu'à la dépression. On ne le savait pas peut-être avant vous, je trouve.
Ben, je pense que ça amène à un épuisement parce que les trolls, pour vous, c'est très difficile à gérer parce que, bon, on va souvent dire qu'il faut les ignorer. Mais ça ne marche pas, ça. Les ignorer... ils ont quand même une emprise sur nous. Si on les ignore, on passe à côté de l'occasion de les remettre à leur place. Donc, c'est eux qui gagnent. On passe à côté de l'occasion des fois, ils disent des faussetés. On veut gagner.
Mais docteur...
débat, mais ça, c'est fatigant. On ne veut pas les laisser avoir le dessus. On perd énormément d'énergie. Puis quand c'est des vrais trolls très, très, très agressifs, là, on veut aller les dénoncer, par exemple, aux autorités, c'est souvent sur la fine ligne. Moi, je me suis déjà retrouvée dans un bureau de police où on m'a dit, ben, tu sais, on ne peut pas faire grand-chose. On n'est même pas sûr que c'est la personne en tant que telle qui vous a envoyé ces menaces de mort-là. C'est peut-être son enfant qui avait accès à son ordinateur. C'est hyper compliqué. On perd une énergie folle, un temps fou à gérer ça, puis perdre cette énergie-là, déjà, je pense que c'est une bonne base pour un burn-out.
C'est vrai que les trolls, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement douloureux pour les enfants, notamment, d'ailleurs, à l'école, puisqu'il y a eu des cas de suicide à cause de trollage.
Oui.
Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument immonde.
Mais c'est une forme d'intimidation.
C'est de l'intimidation et c'est une violence inouïe. Mais en fait, il y a quand même des méthodes qui permettent... J'ai relevé quelques méthodes.
Oui.
C'est notamment un modérateur, qui avait inventé et qui avait mis un logiciel en place qui s'appelle l'isolement technique.
Okay.
C'est-à-dire qu'en fait, quand un troll écrit quelque chose, il y a des mots qui sont référencés.
Mm-hmm.
Et quand ces mots apparaissent, il est exclu. Il est tout seul et il envoie des messages mm-hmm. et personne ne lui répond puisqu'il est tout seul dans son coin.
Mm-hmm. Moi, j'ai pas accès à cet outil-là. C'est nouveau que j'apprends qu'il existe. Moi, ce à quoi je peux référer dans mon vécu, par exemple, c'est de bannir quelqu'un sur Facebook ou Twitter. Ouais. On nous dit « bannis-les ».
Ce qu'il faut faire, oui.
Sors-les. Bon, premièrement, comme journaliste, déjà, je ne suis pas toujours à l'aise avec ça parce que moi, je veux laisser aux gens l'opportunité de s'exprimer. Puis déjà, il faut quand même prendre une décision. Est-ce qu'il est allé trop loin ou est-ce que je suis trop susceptible? Donc, il faut exercer un jugement. Bon, une fois qu'on le bannit...
Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des bons trolls et des mauvais trolls? Des pas trop mauvais?
Il y a des gens que tu dis, ben, c'était sur la limite, mais c'est moi qui suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Fait que ça rentre pas. Mais des fois, bon, on va au point où on les bannit. On se rend au point où on les bannit de Facebook, bannit de Twitter. Mais ces gens-là continuent à cracher leur venin. Et, bon, premièrement, peuvent partager des faussetés à notre endroit, ce qui n'est pas agréable parce qu'on veut rectifier le tir dans ce temps-là, mais aussi peuvent dire... Moi, je fais référence à un troll qui avait, à un moment donné, je l'avais barré sur Twitter, puis je l'ai vu réapparaître dans les médias parce qu'il a fait l'actualité, parce qu'il est allé trop loin. Là, il a dit que du haut des cieux, Marc Lépine avait bonifié sa liste de gens qui voulaient, de féministes qui voulaient tuer. Puis là, j'étais allée voir qu'est-ce que ce troll-là était devenu, parce que moi, ça faisait longtemps que je l'avais barré de Twitter, et j'ai réalisé qu'il faisait une super obsession sur moi et qu'il était toujours en train de parler de moi. Moi, je ne savais pas parce que je l'avais bloqué, mais ça m'a fait réaliser, bien, avoir su, je serais intervenue et j'aurais appelé les autorités pour me protéger, parce que c'est quelqu'un qui était dangereux.
Merci de ce témoignage. Merci. On revient après la pause. Nous sommes toujours avec la ravissante Judith Lussier. Judith, vous, est-ce que vous avez fait du sport pour... vous parliez de de l'impact des réseaux sociaux, de la dépression. Est-ce que le sport vous a sauvé en quelque sorte?
À certains moments, oui, mais quand j'étais en dépression, il n'y avait plus rien. Je me souviens, mon médecin disait, vous avez trois choses à faire, arrêter de travailler, méditer, faire du sport. J'étais comme, mais vous êtes... Je fais déjà du sport comme une déchaînée. Là. Je pouvais pas. Eh bien, à un certain moment donné, je sais pas, peut-être que, docteur, vous pourrez me dire si j'ai tort, mais j'ai l'impression... Moi, quand je fais beaucoup de courses à pied depuis 10 ans, et quand j'étais en dépression, puis ça me fait sécréter des endorphines. Là. J'ai l'impression que quand je sors de mon jogging, là, je suis droguée à la joie et au bonheur. Quand j'étais en dépression, je partais courir, ça rentrait pas. Neurotransmetteurs ne rendaient plus la sensation de bien-être que me procurait le sport d'habitude. Ça se rendait plus à moi. Peut-être que si j'avais arrêté de faire du sport, ça aurait été pire. Donc, j'ai continué. J'ai vraiment continué à m'accrocher à ça. Puis le yoga aussi m'a aidé beaucoup. Et dans mon rétablissement, ben, ça a été essentiel parce que ça met une routine. Moi, tous les jours, je fais soit de la course ou du yoga, une heure par jour, un ou l'autre. Et ça, ben, ça a été vraiment fondamental dans mon rétablissement. Mais ça l'avait été surtout, moi, quand j'ai commencé à en faire il y a 10 ans, puis je pense que j'étais peut-être en dépression à ce moment-là aussi. Puis j'avais fait... Je m'étais mise au sport, puis ça m'avait aidé vraiment beaucoup.
Ce que je trouve aussi intéressant, vous êtes une fine observatrice de la société, autant en tant que féministe ou de votre rapport aux réseaux sociaux. Votre regard sur la vie est intéressant. Et vous avez réfléchi, vous avez vécu quelque chose... vous m'avez raconté quelque chose qui m'a fort touchée et j'ai envie qu'on en parle en onde. C'est que vous étiez dans une salle d'urgence et vous avez vu comment on a traité une femme autochtone. Mm-hmm. Les deux jambes m'ont coupé. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de ce que vous avez vu dans cet hôpital.
J'ai vu, en fait, une femme se faire traiter avec une espèce de mépris du genre... C'était pas dit, évidemment, mais l'infirmière, dans son attitude, tout dans son corps dégageait le fait que, bon, on dirait que ça disait, bon, encore une autochtone en état d'ébriété, j'ai d'autres chats à fouetter, il va falloir que je la gère, ça va être compliqué, elle aura pas ses papiers. Ça avait l'air là, d'un fardeau, puis je trouvais que ça manquait énormément d'humanité, puis je sais que ces gens-là, dans le système de soins de santé, sont absolument... marginalisés, c'est difficile, ils sont jugés, ils sont déjà pris en... Tu sais, ils arrivent déjà avec une prise contre eux. Et oui, effectivement, je trouvais ça... Je trouvais que même au sein d'un système de santé qui est supposé être vraiment démocratique puis vraiment universel, on n'arrive pas là, tout le monde égaux.
On a des croûtes à manger, hein? Ouais. Surtout qu'on parle des Autochtones. Ouais. Aussi, je sais que vous avez quelqu'un proche de vous qui s'est intéressé... à la bipolarité, qu'on a même fait une émission de télévision. Qu'est-ce que vous avez appris à travers les propos de cette émission de télévision ou la bipolarité de l'avoir mis un peu à l'antenne. Qu'est-ce que vous avez retenu?
Oui,
de...
c'est ma blonde Marie-André Labbé qui est l'auteur de la série Trop à Radio-Canada. Ça m'a appris en fait que ce qu'elle voulait démontrer, puisque je trouve brillant parce que je l'aime, c'est que la maladie mentale, ça touche énormément de personnes. On dit une personne sur trois va être touchée par la maladie mentale au cours de sa vie, mais ça, c'est une personne qui va vivre la maladie. Après ça, il y a les gens qui l'entourent. Puis aussi, ce qu'elle voulait démontrer, c'est que, bon, il y a la personne qui est bipolaire, mais sa sœur est dans une espèce de dynamique de codépendance. Elle a un ami qui a un problème de dépendance aussi. Elle a l'amie de sa sœur qui est très, très, très anxieuse. Donc, on vit tous des enjeux de santé mentale à plus ou moins grande échelle. Je pense qu'il était temps qu'on en parle et qu'on en parle sans tabou, puis qu'on voit que, ben, aussi, il y a quelque chose d'intéressant chez ces gens-là. Le personnage bipolaire dans Trop, c'est la personne la plus attachante, la plus inspirante. Elle donne du courage aux autres. Elle sort les gens de leur zone de confort. Donc, on a à apprendre de ces gens-là parce que c'est bien beau de psychiatriser puis de dire, bon, ben, toi, t'es comme ça parce que t'es borderline ou t'es comme ça parce que t'es bipolaire.
On les stigmatise.
Mais après
hein?
ça, il faut tirer profit de ces qualificatifs-là. Mmh. Ces gens-là qui sortent de la norme, qui sont intéressants, ils ont des choses à nous apporter.
N'est-ce pas, docteur?
Tout à fait, c'est très intéressant. Après avoir parlé du mal-être moral,
oui.
On va parler avec Claudine Larivière, nutritionniste, de la manière de pouvoir bien manger quand on n'est pas super bien dans sa peau.
C'est pas évident.
Non. Et je vous proposerai aussi un stéthoscope sur la santé des personnes LGBTQ+.
We get so comfortable.
Allô. Bonjour Claudine.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien. Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, est avec nous aujourd'hui avec Judith Lussier.
Bonjour Judith.
Bonjour.
Ça va bien?
Très.
Alors aujourd'hui, Claudine, vous allez nous parler de comment continuer de manger quand on est déprimé et qu'on ne se sent pas au meilleur de sa forme.
Oui, absolument. Ben, en fait, c'est vraiment c'est quelque chose que j'entends beaucoup les gens quand ils ont le moral à plat, sont pas très bien aussi dans leur peau, passent des moments difficiles. L'appétit, souvent, va soit amplifier parce qu'on va avoir envie de manger nos émotions ou d'autres personnes qui vont simplement plus avoir d'appétit. Donc, c'est de trouver un équilibre qui va nous permettre quand même de bien carburer nos journées puis de quand même pas se mettre à risque de développer des carences nutritionnelles. Parce que même si on mange trop, on en avait parlé dans une autre émission, on peut aussi tomber en carence nutritionnelle. Mmh. Donc, c'est comment trouver son équilibre là-dedans. Fait que j'ai élaboré en fait 4 points qui, je pense, sont vraiment essentiels à garder en tête. Le premier point, c'est de continuer à se faire plaisir. Et là, c'est un petit peu bizarre dans le contexte de ben je mange mes émotions puis ça risque de pas être trop bon pour moi en bout de ligne. Mais en fait, c'est qu'on oublie beaucoup que notre système digestif est notre deuxième cerveau. On en entend beaucoup parler. La majorité de nos neurones sont là. Donc, c'est important que tout ce qu'on mange, ben, ça va apporter un sentiment de bien-être. Donc, si je me force à manger des choses qui sont trop secs, qui ont pas de goût, qui sont un peu fades aussi au niveau des couleurs. Donc, c'est pas attrayant. C'est sûr que ça va me donner moins le goût de bien manger ou de manger plus santé, si on veut. Est-ce que ça fait du sens?
Ah, ça, c'est une nourriture remonte morale, alors, ça.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est positif.
Oui, exactement. Puis c'est sûr que, bon, le deuxième point que je voulais dire qui vient complémenter ce premier point, c'est que là, je suis en train de dire d'aller chercher du McDonald's ou de manger du chocolat ou des chips à longueur de journée. Ouais. C'est vraiment pas ça. Ouais. L'idée, c'est que si, par exemple, j'ai envie de manger du chocolat noir à tous les jours, c'est de se le permettre. C'est si, par exemple, j'ai envie de prendre un verre de vin parce que ça me permet de me calmer puis de me sentir plus détendue malgré les événements, malgré la dépression, c'est correct. C'est sûr que là, l'alcool, faut voir s'il y a des médicaments qui sont en compte, là. Donc, je suis pas en train de faire une recommandation généralisée.
Dommage. Mais,
oui.
Heureusement.
Moi, pendant la dépression, il a fallu que j'arrête l'alcool parce qu'à un moment donné, là, on s'aide pas, sinon.
Ça va pas ensemble.
Exactement. Mais des fois, les gens vont pas aller jusqu'à la médication dans le contexte d'une dépression. Fait que ça peut aider aussi un petit peu. Il y a toujours, tu sais, toujours trop, c'est comme pas assez. Donc, il y a une zone grise dans laquelle on peut naviguer à travers ce processus-là. Donc, si c'est pas quelque chose qui est contre-indiqué à ce moment-là, je pense que c'est pas un problème. Mais bref, je vais pas m'attarder à l'alcool. Mais tout ça pour dire qu'on a des aliments fétiches qui nous amènent un certain réconfort. Puis je pense que c'est important de se les permettre dans les périodes où, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Judith, mais je pense que c'est OK, c'est correct de se le permettre, en autant qu'on est capable de rééquilibrer notre assiette aussi à travers tout le processus.
Moi, quand j'étais en dépression, j'avais tellement de difficultés à manger, à m'alimenter, que quand un repas, j'arrivais à quelque chose qui m'intéressait, que j'avais le goût de manger, je me garrochais parce que j'ai perdu 30 livres, moi, pendant ma dépression.
Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment trouver un équilibre puis de voir, j'ai une opportunité de manger, j'ai envie de manger. Fait que c'est sûr qu'on peut pas négliger puis on va prendre qu'est-ce qu'on a envie de manger. C'est sûr aussi dans les cas où justement l'appétit est pas là, faut aller vers peut-être des compléments, des substituts de repas qui peuvent venir justement permettre de rencontrer quand même un certain apport énergétique pendant la journée. Là. Mm-hmm. Puis l'autre chose, c'est de pas négliger aussi, comme je disais, la qualité des aliments. Donc, on peut avoir des aliments qui nous rendent heureux puis heureuses, qui nous aident à mieux se sentir malgré la dépression, mais qui sont de haute qualité aussi. Fait que souvent, quand on dit des aliments plaisir, on va penser à des cochonneries, mais là, non, il y a aussi des bons aliments qui peuvent nous rendre heureux et heureuses. Fait que tout ce qui est riche en vitamine D, comme les poissons, les baies substituts, donc tout ce qui va être enrichi en vitamine D, les oméga 3 aussi, on le sait, souvent à l'hiver, là, c'est avec le super hiver qu'on a eu qui ne finissait plus, on veut remonter le moral, donc les oméga 3 permettent d'améliorer notre humeur. Donc tout ce qui est poissons gras à chair rose, ça peut être des belles alternatives pour ceux et celles qui mangent des poissons, mais sinon ça peut être des aliments aussi qui vont être enrichis avec des oméga. Puis tous les complexes B, je ne sais pas si tu prenais une multivitamine, Judith.
Non.
Mais tu vois, ça, c'est en fait, là, je les nomme dans les aliments pour les consommer, mais exemple, dans ton cas, c'était l'appétit qui n'était pas au rendez-vous, bien à ce moment-là, tu peux appuyer ta nutrition, complémenter, excuse-moi, ta nutrition avec une supplémentation aussi dans ces nutriments-là. Donc, tous les complexes B apportent beaucoup, beaucoup aussi au niveau des neurotransmetteurs au niveau de notre cerveau, puis vont nous aider à stabiliser notre humeur.
Ce sont toutes les vitamines B.
Les B12, par exemple.
C'est les B1, B6, B1, B3, B6 et les B12 pour l'anémie.
Oui. Exactement. Donc, on va vraiment parler du complexe B de façon générale. Donc, viande, volaille, poisson, légumineuses, les œufs, la levure alimentaire, le germe de blé, le soya, puis évidemment, les suppléments en vitamine D aussi. Donc, ça, c'est une autre chose. Le troisième point, bien, c'est de manger le plus fréquemment possible, de sortir du contexte de je vais manger un bon repas, puis après ça, on n'a pas faim nécessairement pendant plusieurs heures après, mais de se permettre de grignoter, d'avoir des barres avec nous, des fruits séchés, des noix. Donc, juste au moins grignoter un petit peu, même si on n'a pas nécessairement le signal de faim, en fait, qui est présent. Là. Juste de se nourrir plus fréquemment pour au moins pouvoir avoir un meilleur rapport. Donc, ça, c'est une super belle solution. Finalement, mais c'est aussi briser la routine. Dans plusieurs cas, souvent, on a des déclencheurs émotionnels aussi qui vont nourrir cette dépression, cet état dépressif-là. Donc, c'est sûr que ça n'a pas juste un lien avec la nutrition, mais juste de briser la routine, d'aller marcher, prendre de l'air, s'oxygéner, changer sa morphologie aussi, adopter des positions qui vont nous aider à pas juste être recroquevillés sur nous-mêmes dans notre lit ou sur le divan. Donc vraiment, aller marcher, s'oxygéner, bouger, parce qu'on sait que ça nous permet justement de produire des hormones du bien-être.
Oui, on en parlait tout à l'heure avec Judith.
Exact.
Mmh. Et puis ça ouvre l'appétit.
Et ça ouvre l'appétit.
Ça ouvre l'appétit en plus. Donc, c'est tout un travail d'équipe, en fait. Puis ça vient vraiment aider. Oui. Donc, voilà.
OK, très bien. Merci beaucoup, Claudine. C'est vraiment parfait. C'était vraiment des bonnes recettes qu'on va pouvoir suivre, ou du moins que les patients, que les auditeurs qui sont...
Et les patients.
Des formations professionnelles.
Oui, des formations professionnelles. Que les auditeurs qui se sentent pas bien dans leur peau vont pouvoir suivre. Merci, Claudine Larivière.
Ça me fait vraiment plaisir.
Ah, mais ça me fait plaisir aussi. Nutritionniste et, n'oublions pas, spécialiste en productivité humaine. Merci. Au revoir.
Merci.
Stéthoscope.
C'est un moment où on ausculte pas seulement le cœur du patient, mais où on écoute un article ou des conseils de la santé sociale ou psychologique, et dans ce cas, même pédagogique. Notre invité défend souvent la santé des personnes LGBTQ+. La santé des personnes LGBTQ+, un révélateur d'inégalités sociales, par Gabriel Girard. C'est un article qui est paru dans le HuffPost Québec 2017. Gabriel Girard est un sociologue, chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal. Pourquoi les conditions de santé des lesbiennes, des bisexuels, des gays et des transgenres LGBT sont-elles structurellement plus défavorables que celles de leurs concitoyens hétérosexuels? Ce questionnement était au cœur du colloque international sur la santé LGBT tenu à Paris les 9 et 10 mars 2017. Dans le domaine des infections transmises sexuellement, les minorités sexuelles et de genre paient toujours un lourd tribut. C'est également le cas pour la santé mentale. Les recherches ont démontré à quel point l'expérience de l'homophobie, de la lesbophobie et de la transphobie a des effets délétères sur le bien-être psychologique et malheureusement aussi sur les idéations et les tentatives de suicide. D'autres enjeux de santé sont plus spécifiques. Les lesbiennes font face à des difficultés d'accès aux soins gynécologiques et les personnes trans subissent toujours de fortes discriminations dans l'accès aux soins en général. Ces exemples illustrent certaines des dimensions structurelles des problèmes rencontrés.
Le second constat qui ressort du colloque concerne les relations de soins. Les discriminations vécues par les personnes LGBT dans le milieu médical s'ancrent souvent dans la méconnaissance et ou les présomptions des soignants. À ce titre, les études scientifiques et les retours d'expérience convergent. Dans bien des cas, le patient reste implicitement considéré comme hétérosexuel et cisgenre. Il lui revient alors de faire la preuve du contraire en dévoilant son orientation sexuelle et ou son identité de genre. L'enjeu d'une médecine plus LGBT-friendly a constitué l'un des fils conducteurs des discussions du colloque. Il nous faut envisager des services de santé plus adaptés, plus accessibles, tout en restant abordables financièrement. Mais un tel objectif n'est pas à sens unique. L'idée est d'outiller les patients afin de créer les meilleures conditions pour se dire. Mais il s'agit aussi de sensibiliser les soignants et de les accompagner, pas simplement dans l'acquisition de savoirs spécifiques, mais aussi dans le développement de savoir-être face à la diversité sexuelle. Troisième constat, agir sur les inégalités sociales de santé vécues par les communautés LGBT implique d'envisager différentes échelles d'intervention et de réflexion. La santé des minorités sexuelles, pour des raisons historiques et épidémiologiques, a longtemps été résumée aux interventions en santé sexuelle et à la lutte contre le VIH et les ITS. Cette approche très génitale de la santé est limitative et elle élude des dimensions clés des réalités des personnes LGBT. Au Québec, comme en France ou en Suisse, tous les acteurs de la santé LGBT s'accordent sur la nécessité d'approches holistiques, intéressées autant par les expériences individuelles que par les contextes sociaux et culturels dans lesquels elles s'inscrivent. Changer la donne en matière de santé LGBT implique de cesser d'envisager ces enjeux comme trop spécifiques ou trop minoritaires. Au contraire, dans ce domaine comme tant d'autres, l'action des minorités sexuelles et de genre est profitable à tous et à toutes. Elle s'inscrit ainsi dans une démarche globale pour des rapports de soins humanistes et adaptés aux spécificités de chacun. Une telle approche implique indiscutablement des alliances productives entre les communautés, les soignants, les chercheurs, les institutions de santé publiques et les décideurs publics. Politiques, pardon. Donc il s'agissait de l'article écrit par Gabriel Girard dans les blogs Le UFPost Québec 2017. Et je m'aperçois qu'en fait... ça n'a pas beaucoup changé, parce qu'en fait, quand j'étais jeune étudiant en médecine, je me souviens qu'on découvrait le sida, et ceux qui étaient atteints du VIH, non infecté en lui-même, devenaient des espèces de nouveaux pesteux, pestiférés. Mmh. Et il y avait toute une crainte magique et toute une crainte qui faisait qu'on ne voulait pas rentrer en rapport avec ces gens-là, parce qu'on avait peur de ce qui se passait, de ce qu'il y avait derrière. Et finalement, c'est un peu la même chose. Mmh. C'est toujours pareil.
Ouais, avec les connaissances, je pense que la panique autour du sida s'est calmée, mais il reste qu'il y a encore beaucoup de marginalisation des personnes LGBT dans les systèmes de soins de santé pour tellement de facteurs que vous avez si bien énumérés là, dans ce texte-là. C'est toutes des choses que j'ai vécues de près ou de loin, que j'ai constaté. Ça. L'hétéronormativité déjà dans les services de soins de santé, là, c'est constamment. Constamment, on est présumé hétérosexuel. Constamment, il faut dire...
Il faut dire que non, ouais, n'est pas
ouais,
hétérosexuel.
Donc, le nombre de fois que je vais chercher des médicaments puis qu'on me dit, là, est-ce que vous êtes bien sûr que vous ne tomberez pas enceinte? Non, mais avez-vous un moyen de contraception? Non, mais là, je suis lesbienne. Là, c'est correct, là, chez moi. Mais c'est fatigant. C'est pas grave, mais c'est fatigant.
C'est bon pour la santé.
Lucie, ça te tente-tu de répondre à un quiz pour savoir quel personnage de Pocahontas tu es? Ah ouais.
Ah ouais, shoot. Je suis bonne dans ces affaires-là.
Première question, quelle est la langue autochtone la plus parlée au Canada selon vous?
Je dirais algonquin.
Non, c'est le cri. Je suis même pas sûre que l'algonquin, c'est une langue.
Non?
Deuxième question, à votre avis, qui était Louis Riel?
Ah, ça je sais, c'est le fondateur du Manitoba.
Ça dit chef métis.
Ouais, mais il était aussi fondateur du Manitoba.
Alors Judith, on a de la suite dans les idées. On invite aujourd'hui Marie-Ève Coton, auteure et surtout ethnopsychiatre qui travaille avec les Premières Nations, Inuit, dans le Grand Nord. Bonjour Marie-Ève Coton, ça va bien?
Oui, et vous?
Oui, mais comme psychiatre, vous avez une pratique particulière, vous êtes ethnopsychiatre, vous défendez la santé mentale. Est-ce que ça, c'est seulement dans l'esprit d'une personne?
Non. La façon qu'on a de comprendre la santé mentale, c'est vraiment d'avoir une approche globale, c'est-à-dire qu'il y a dans une personne, il y a une réalité biologique, il y a son corps, il y a sa génétique, il y a son cerveau, il y a sa réalité psychologique, il y a tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, ses relations interpersonnelles, la façon qu'elle a été éduquée, son rapport à sa famille, et il y a l'environnement social aussi, c'est-à-dire dans quel monde on vit, dans quelle communauté on vit, c'est quoi notre rapport avec la communauté, et tout ça, ça a une influence sur la santé mentale des personnes. Moi, en étant spécialisée en ethnopsychiatrie, qui est un domaine de la psychiatrie sociale, c'est sûr que je suis particulièrement sensible aux influences sociales sur la santé mentale des personnes.
Vous travaillez dans le Grand Nord, on vient de le dire, c'est une communauté vraiment souffrante. Qu'est-ce qui vous pousse toujours à aider ces gens-là? Ça prend... c'est quoi? Vous avez quand même beaucoup de bonté. Vous êtes engagée socialement. Vous êtes une grande altruiste. Parce que c'est vraiment... c'est touchant. Ces gens sont très touchants et particuliers. Ils sont carencés. C'est un peuple carencé.
C'est un peuple qui a beaucoup, beaucoup souffert des violences coloniales. Et effectivement, ça donne lieu à beaucoup de souffrances. Un taux de suicide qui est encore un des plus élevés au monde, au Nunavik. Mais je persiste à croire que j'y vais non pas par altruisme, mais parce que c'est des gens profondément intéressants qui me nourrissent beaucoup comme personne, comme professionnelle, parce que c'est des gens que j'ai toujours trouvé très vrais, très, très ouverts dans le contact clinique et qui ont un vécu très particulier. C'est-à-dire que moi, mes premiers appels en médecine étaient dans la médecine humanitaire internationale, dans les pays en voie de développement. Mais j'ai retrouvé un niveau d'adversité, je dirais, économique, sociale, au niveau du vécu de la discrimination, qui est tout à fait similaire chez les Autochtones. Et donc, c'est un peu mon attrait. C'est des gens qui m'enseignent la façon vraiment de vivre avec une histoire extrêmement difficile qui les a agressés à plusieurs reprises, qui vivent encore beaucoup de situations discriminatoires. Et comment est-ce que l'être humain, même s'il est souffrant à travers tout ça, arrive quand même à survivre. Moi, je trouve ça très, très inspirant. Et c'est ce qui me fait que j'y vais encore.
Une question pour vous, Dr. Coton. Oui. J'imagine que d'un point de vue, justement, d'ethnopsychiatre, c'est la population la plus intéressante à étudier parce que, justement, comme vous l'avez dit, il y a eu des violences coloniales. Et donc, ça montre à quel point la souffrance, la santé mentale, il y a un enjeu excessivement culturel, ou pas culturel, mais plutôt... sociologique.
Absolument. Parce que je dis souvent, là-bas, j'aimerais beaucoup des fois pouvoir prescrire des logements adéquats, j'aimerais pouvoir prescrire des emplois, parce que tous ces facteurs-là, quand les gens vivent dans des conditions absolument immondes, quand les gens veulent travailler, veulent se réaliser, veulent prendre part à la collectivité, mais n'ont pas les moyens de le faire, bien, ça amène à une espèce de marginalisation et d'infériorisation de leur personne qui par rapport à laquelle ils souffrent énormément. Donc, tout à fait, je trouve que c'est un endroit où on voit très, très bien comment un contexte social déprimant et violent va donner de la souffrance psychologique très importante.
Est-ce que la dépression est due à leurs conditions sociales dans le Grand Nord? Est-ce que c'est vraiment leurs conditions, l'environnement qui fait que plusieurs Autochtones sont en dépression?
Oui, j'ai jamais vu, parce que vous savez, dans la dépression, on va avoir des dépressions qui sont très réactionnelles à des choses difficiles qui sont arrivées dans la vie. Il y a d'autres formes de dépression où on trouve pas comme ça tellement d'adversité, mais il y a des gens qui ont cette fragilité-là intrinsèque parfois à devenir déprimés sans nécessairement beaucoup d'adversité
dans leur vie. Et ça, j'en ai pas vu davantage de ça chez les Autochtones. Ce que j'ai vu davantage, c'est des gens qui avaient de la souffrance psychologique, qui avaient des humeurs déprimées, mais avec un vécu qui va avec. J'ai suivi une dame au Nunavik dont trois des enfants s'étaient suicidés. Alors, c'est évident que ça, n'importe quel être humain, n'importe quel parent qui a perdu trois enfants de cause violente, comme l'est le suicide, va vivre un deuil extrêmement difficile et compliqué. Donc, jamais vu de prédisposition intrinsèque plus importante des Autochtones vers la dépression, mais beaucoup plus de vécu qui conduit à ça.
Des drames qui se transmettent d'une génération à une autre, hein, comme le vécu des pensionnats autochtones. Bon, les jeunes de ma génération ne l'ont pas vécu, mais leurs parents ont été dans ces dynamiques-là, puis transmettent des espèces de ces drames-là à leurs enfants. C'est qu'on s'en sort un peu jamais.
C'est vicieux, c'est ça.
C'est très pernicieux et c'est vrai que ça se transmet de génération en génération et c'est vrai qu'il faut en parler. Donc, c'est des traumas à prendre très sérieusement parce que ça, malheureusement, ce n'est pas restreint à une génération. Mais il y a tout de même ce qu'on parle moins souvent dans l'espace public, c'est aussi les gens qui, malgré tout ce vécu-là, sont quand même très résilients et s'en sortent quand même et prennent de plus en plus la parole et prennent de plus en plus de leadership dans leur communauté. Donc, je vous dirais que j'essaie toujours de rendre compte des deux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance et qu'il y a des vecteurs de perpétuation de cette souffrance-là de génération en génération. Mais il y a aussi, à travers tout ça, des individus qui émergent, des individus qui s'en sortent, des gens qui sont créatifs, qui veulent travailler, qui vont étudier. Donc, les deux existent.
Et en parlant des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des gens qui... Parce qu'il y a beaucoup d'isolement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont victimes des réseaux sociaux dans votre clientèle ou les gens que vous avez côtoyés dans votre cabinet?
Oui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans les mœurs contemporaines. Donc, j'ai plusieurs, effectivement, patients qui utilisent les réseaux sociaux. Et c'est un lieu, pour certains, très satisfaisant, très ludique, très enrichissant, mais c'est sûr que pour d'autres, ça peut devenir un lieu aussi de harcèlement psychologique, de violence, de toutes sortes de propos discriminatoires. Donc, c'est un lieu qui peut aussi donner lieu à l'agression. Et ce qui est un peu, je dirais, qui rend les gens plus vulnérables, c'est que dans le mode de vie où on n'avait pas les réseaux sociaux, on pouvait plus facilement, par exemple, je parle de jeunes, par exemple, s'ils allaient à l'école, ils étaient victimes de harcèlement ou de discrimination ou d'intimidation à l'école, ben, il y avait au moins la sphère à la maison qui était comme protégée, qui était vraiment un break complet de ces agressions-là. Maintenant, à travers les réseaux sociaux, l'environnement social nous poursuit beaucoup plus de façon beaucoup plus envahissante dans notre vie, ben, évidemment si on se connecte, mais c'est de plus en plus difficile avec ces mœurs-là d'avoir vraiment une zone où personne ne peut nous harceler ou nous intimider, etc. Donc c'est à prendre en considération pour nous dans les facteurs d'adversité psychologique que les gens peuvent vivre.
Est-ce que vous avez l'impression que la situation de la dépression est en train de s'aggraver dans le Grand Nord?
Dans le Grand Nord, je dirais que la situation est stable, mais elle est stable dans un niveau dramatique. C'est-à-dire que si on regarde du côté médiatique, c'est sûr qu'on a de temps en temps des choses qui sont plus médiatisées lorsqu'il y a une catastrophe ou un drame particulier, mais je vous dirais que depuis que j'y pratique, en 1999, le taux de suicide reste quand même élevé. C'est sûr que c'est des petites populations, donc ça peut varier d'une année à l'autre, mais ça reste quand même, somme toute, assez élevé. Et assez élevé chez les jeunes aussi, ce qui fait évidemment particulièrement mal au cœur de voir des suicides qui commencent à 13-14 ans. Donc, je dirais pas nécessairement que je vois la situation empirer. Par contre, c'est sûr que les améliorations sont très... modeste, bien que c'est toujours surprenant de voir à travers un environnement aussi difficile quand même des gens bien aller et des gens sortir de ça avec énormément de résilience.
Ça, c'est positif au moins.
Oui, exactement. Je peux pas dire que si j'étais complètement, je dirais, découragée ou si je voyais pas d'espoir pour cette population-là, je serais évidemment incapable de continuer à y aller. Ce serait comme trop triste pour moi, mais je vois quand même s'il y a beaucoup de souffrance
et que ça perdure dans le temps, je vois quand même des gens qui sont capables de construire à partir de cet environnement social-là.
Judith, est-ce que vous avez une question à poser à notre
Oui, vous avez écrit un texte, Dr. Coton, sur la différente perception qu'on a à l'égard d'un tueur comme Alexandre Bissonnette versus un terroriste qui... Oui. Ben, en fait, justement, je suis en train de faire le biais que vous dénonciez, là, c'est-à-dire que si c'était une personne qui vient avec un agenda islamiste, par exemple, on va la traiter de terroriste. Est-ce c'est une autre... j'imagine que c'est encore votre expertise d'ethno-psychiatre qui vous permet d'avoir ce regard-là. Est-ce que vous pensez qu'on devrait être plus sévère envers des Bissonnettes ou envers des personnes qui correspondent pas nécessairement à l'image du terroriste, ou est-ce qu'on devrait les mettre dans la même catégorie que les terroristes?
Bien, c'est sûr qu'il faut, on peut faire des différences entre des terroristes qui sont téléguidés par des organisations et des terroristes qui sont un peu des acteurs solitaires, comme on les appelle. C'est vrai qu'ils peuvent avoir des différences. Ce que je trouve surtout, c'est qu'il faut éviter de faire un deux poids, deux mesures entre des gens qui sont comme nous et des gens qui sont de religions différentes ou d'ethnies différentes. Et on a toujours tendance, c'est vraiment un biais d'attribution qui est connu dans la psychologie cognitive, les gens qui sont proches de nous, lorsqu'ils connaissent des actes répréhensibles, on essaie de trouver la source dans le contexte, une explication. Quand c'est des gens qu'on connaît peu, c'est des gens qui sont beaucoup plus faciles à démoniser parce qu'ils sont anonymes pour nous, on va plutôt avoir tendance à chercher la source à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça, il faut faire attention. Parce que même, je vous dirais, quand on regarde, on étudie les techniques de recrutement des djihadistes, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux et ils ciblent des jeunes qui ont des points en commun avec Bissonnette, c'est-à-dire des jeunes assez mal dans leur peau depuis longtemps, assez isolés, qui ont ce profil-là. Et c'est des gens qui sont comme plus à risque d'être embarqués par le mirage extrémiste. Donc, je trouvais ça important qu'on se rappelle aussi. Et pour moi, tous les tueurs de toutes les origines, c'est très important de les humaniser parce que c'est pas vrai que c'est des monstres intrinsèques, c'est des êtres humains, mais c'est... Pour moi, humaniser, ça ne veut pas dire déresponsabiliser. Il faut quand même tous également les responsabiliser face à leurs actes qui sont évidemment inacceptables, mais ce réflexe de comprendre en quoi les fragilités de la personne ont pu favoriser cette violence-là, je pense qu'on doit l'avoir également envers les Québécois et envers les gens de confession musulmane.
Bien, merci infiniment, Dr. Marie-Ève Coton, pour nous avoir sensibilisé sur la problématique des Autochtones. C'était vraiment très enrichissant. Je vous remercie beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
Sur les réseaux sociaux, les commentaires à des mannequins, par exemple, qui se rasaient pas les jambes. Les gens disaient « c'est pas hygiénique ». Puis j'étais comme « ah, madame, c'est pas hygiénique, puis c'est hygiénique chez les hommes. Ah, c'est quoi ce double standard-là? »
Nous sommes en compagnie de Pamela Dupont, organisatrice en chef, comédienne et co-directrice du Théâtre de la Foulée. Bonjour, ma Pella. J'ai un petit chat dans la gorge, docteur. Pensez-vous que je survive jusqu'à la fin de l'émission? Il va me donner des croquettes, il a dit le docteur Baruel. Non, mais... c'est quoi mes poils? On voudrait savoir.
Qu'est-ce que c'est, mes poils? Oui. Ben, ça s'écrit de prime abord, il faut dire que c'est tout d'un mot, M-A-I-P-O-L-L, puis dans le titre, un peu tout est compris, c'est-à-dire les deux idées principales. C'est un défi qui se passe au mois de mai, donc M-A-I, mais dans le mois de mai, on peut aussi entendre l'homophone M-E-S comme une réappropriation, et le sujet, c'est le poil. Donc, ça invite les gens à faire un défi dans le ludisme et dans le but de questionner les symboliques du poil et son pouvoir sur son propre corps, donc de ne pas stipuler. C'est ça le but du mois, c'est d'essayer de laisser en paix, de faire un traité de paix durant tout mai par rapport à sa peau. Voir si on est capable de résister à cette tentation d'éradiquer les poils et surtout aussi de sortir d'automatisme pour finalement peut-être nourrir, c'est le but de l'estime personnelle et de pouvoir faire un réel libre choix par la suite.
Est-ce que vous... j'ai plusieurs questions. D'abord, vous avez fait des vidéos sur la question.
Oui. Tout à fait, à tous les jours. Le but, c'est vraiment que les gens puissent se l'approprier d'un peu n'importe où. Donc, l'année passée, c'était que franco. On avait des vidéos aussi à tous les jours. Mais là, cette année, on fait des sous-titres également en anglais. Et le but de tout ça, c'est que ça puisse se promener et que les gens, peu importe de la ville, du pays où ils sont, aient accès à un certain support virtuel, donc des témoignages dans lesquels ils peuvent se reconnaître ou être en réaction, mais que ça fasse naître des conversations sur le sujet, vu que ça existe très peu.
Oui, on a entendu d'ailleurs un extrait avec notre invité, Judith Lucie, qui témoignait sur les doubles standards à l'égard des poils. Est-ce que les hommes sont aussi concernés par mes poils?
Tout à fait. Ils sont aussi très concernés parce que le mouvement est vraiment dans une inclusivité. Là, c'est du féminisme contemporain. On croit que ça se passe main dans la main avec les hommes, femmes, personnes non-binaires. Mais ce qu'on nomme de différent, parce qu'on a quand même des témoignages d'hommes durant les 31 de façon quotidienne, mais la grosse différence, c'est que chez les hommes, il y a une pression grandissante là, depuis la culture du gym, mais à s'enlever les poils, sauf que c'est encore une mode. C'est pas encore une norme. Alors que chez les femmes, depuis quand même 100 ans, ça s'est installé graduellement et d'autant plus depuis les années 90 comme étant une norme. Donc, ce qui est plus difficile pour les femmes, c'est que dans la rue, le jugement, le mépris va venir très rapidement si elle a sa pilosité naturelle. Alors qu'un homme...
Dans la rue ou sur les réseaux sociaux aussi, hein, une photo où on voit la pilosité. On a vu d'ailleurs des mannequins, une mannequin pour Adidas qui a porté du poil sur ses jambes puis ça a généré des réactions vraiment extrêmes là, par rapport à sa pilosité.
Oui, c'est ça. Les gens, des fois, ils disent que c'est ridicule qu'on parle de poils, mais ça va juste, effectivement, comme tu dis, Judith, à des menaces de mort, alors que c'est ça, c'est juste du poil. C'est pas le poil,
c'est juste du
grave,
poil. C'est ce qu'il représente. C'est ce qu'il représente. Mais pourquoi ça met, d'après toi, Pamela, pourquoi ça fragilise autant certaines personnes qu'on décide de laisser pousser nos poils?
Ben, les femmes sont même parfois un peu plus violentes dans leur action ou dans le mépris. Puis ce qui est spécial de ça, parce que finalement, si on est réellement dans le libre choix, ça veut dire qu'on peut être bien, peu importe ce que l'autre fait. Moi, ce que je trouve fascinant dans les réactions parfois de mépris des femmes face à celles qui veulent vivre naturellement et bien avec leur pilosité, c'est qu'à quelque part, c'est comme si elles-mêmes n'étaient pas totalement assumées avec leur choix. C'est comme triste. Parce que je me dis, si elles étaient vraiment bien dans l'épilation tout ça, ou le rasage, ben ça susciterait pas ce genre de réaction-là. Fait qu'il y a comme un paradoxe là-dedans aussi.
Mais toi, Judith, tu le fais, mes poils, qu'est-ce que ça t'apporte?
Moi, je l'ai fait l'année passée et ça m'a vraiment amené une réflexion sur mon rapport aux poils. Justement, ça m'a permis de me réapproprier puis de faire tabula rasa. C'est drôle, hein, parce que c'est le contraire. Mais ça m'a vraiment permis de faire, de me mettre à zéro puis de voir comment je me sens par rapport à ma pilosité quand je vais au yoga, quand je vais chez le massothérapeute, quand je vais à la piscine. Comment je gère la perception des gens? Puis ça m'a fait réaliser que dans plusieurs situations, soit j'étais mal à l'aise ou que j'étais... ou que j'aimais challenger. Des fois, j'aime ça être un peu rebelle. Donc, mon gros poil en dessous des aisselles, là, j'aime ça le flasher comme il faut. Mais tout ça, toutes ces réflexions-là que j'avais pas eues avant parce que me raser était un automatisme puis je subissais quand je le faisais pas de l'espèce de honte puis de la... ça a tout remis ça en question. Puis là, depuis un an, moi, je le dis, je l'ai fait l'année passée puis j'ai jamais arrêté. Donc, je suis super libre dans mes poils. Puis bon, Bon, je me rase plus les aisselles parce que j'adore mon poil en dessous de mes aisselles. Des fois, je vais me faire épiler les jambes, mais c'est vraiment là pour moi, puis c'est vraiment dans une autre perspective. Il n'y a pas l'espèce de pression, puis je peux aller au yoga sans les avoir faites, puis ça me dérange pas. Puis c'est vraiment, tu sais, moi, ça a été génial là, pour moi, cette réflexion-là, puis de remettre en question ce dictat-là, parce que c'est vraiment une pression qu'on a, qu'on s'impose, puis je sais pas...
Surtout les femmes.
Ben oui, puis c'est super intéressant de la remettre en question. Pamela.
Pamela, il y a combien de personnes qui suivent ce mouvement, si on peut l'appeler ainsi, c'est un mouvement?
Ben, on en découvre à tous les jours, parce que sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est davantage des personnes plus jeunes qui sont, mais aussi des personnes plus âgées. C'est pas toutes les générations qui sont sur Facebook. Comme exemple, on a 2500 followers, mais on sait que cette semaine, toutes nos publications ont été vues par 23 000 personnes différentes, par exemple. Fait que ça rejoint quand même quelques dizaines de milliers. Puis le but, c'est qu'on fasse le plus d'entrevues possible. Les vidéos sont vues environ 3 000 vues par vidéo. Puis sur le site, ben, c'est environ autant que les vues publications, environ 20 000 personnes qui les voient. Mais tranquillement, ça intéresse les pays francophones pour l'instant, la France, tout ça. On va avoir une entrevue avec le Nouveau-Brunswick. Le but, c'est vraiment de susciter les conversations, parce que même si quelqu'un ne veut pas y participer, il ne peut pas, ben c'est pas que ça l'intérêt, mais c'est vraiment d'être plus libre dans ce tabou-là, puis de sortir de la honte, là, de parler de quoi nous en avoir, simplement.
Ben merci, Pamela Dupont. On va rappeler le site web, c'est www.mespoils.com. Mes poils avec un S.com. Alors, c'est Pamela Dupont de Mes poils qui est avec nous, organisatrice en chef, comédienne et co-directrice du théâtre La Foulée. On va vous faire intervenir aussi sur votre rôle de comédienne prochainement, je vous promets. Merci beaucoup Merci d'avoir assisté à notre émission. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my ears.
Alors, à chaque semaine, on parle d'un livre de santé avec notre charmant docteur Baruel. Aujourd'hui, le livre, c'est « La longévité expliquée et démystifiée », édition très carrée. Alors, c'est fait par Jude Poirier. Il est professeur et titulaire dans le département de médecine, de psychiatrie de l'Université McGill. Il est directeur de recherche sur le vieillissement, la cognition, la maladie d'Alzheimer au centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas. Donc, il a écrit ce livre-là. On apprend que la moyenne d'âge au Québec, pour une femme, c'est 80 ans, puis qu'un homme, c'est 75 ans. Donc, il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans ce livre. C'est comment vivre le plus longtemps possible. Moi, j'ai appris, il y a quelques points qui m'ont fascinée. C'est que l'alimentation, on mange trop. Selon le docteur, il y a des études qui ont montré que si on réduisait notre quantité de nourriture, on pouvait vivre jusqu'à 30 à 40 % plus longtemps. Mmh. Donc, il faut slacker les puddings chômeurs avant de se coucher. L'exercice physique, l'exercice physique 30 minutes par jour, mais c'est excessivement important. Là, c'est vraiment 30 minutes par jour, prescription,
ordonnance.
Et puis aussi, il parle de la socialisation. Alors là-dedans, il parle abondamment de Jeanne Calment, qui est la doyenne de l'humanité, qui est morte à 122 ans. Et selon lui, elle est décédée très tard parce qu'elle a été dans sa famille, que la cognitivité est gage de longévité.
Je suis sortie. Tout ça, ça me semble être des connaissances de base qu'on avait déjà.
Sauf que c'est basé avec des statistiques, des études, et c'est un médecin qui le dit. Mm-hmm. C'est bien plus le fun quand c'est un médecin qui le dit que ton chum ou ta blonde.
Oui.
Quand c'est avec des statistiques, c'est fouillé, c'est très bien vulgarisé. Il parle du stress, il y a des schémas, c'est très médical.
Au niveau de la socialisation, je trouve ça intéressant parce que ma grand-mère, moi j'ai habité avec ma grand-mère jusqu'à ce que je quitte le foyer familial à 21 ans. Elle habitait avec nous. Puis dès que je suis partie de la maison, vraiment, sa cognition a décliné de façon majeure.
Tout à fait.
C'est sûr. Et docteur Baruel, il y a une chose dans ce livre-là aussi. Il parle. Mais là aussi, tu vas dire, je dis, c'est connu. Vérité de la valise. Sans être l'air que le stress est pas bien pour la santé.
Oui.
Il dit dans le livre.
Ouais, le stress est très mauvais.
Non, mais sur la longévité.
Le stress à long terme, c'est très mauvais puisque ça provoque des dépressions nerveuses.
Mm-hmm. Oui, bien sûr.
N'est-ce pas? Et mais en même temps, ça abîme une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui lui va sécréter faire sécréter du cortisol et de l'adrénaline. Et ça va provoquer le stress.
Oui.
Et ça va provoquer aussi la dépression, etc. etc. Et c'est un cercle vicieux. En fait, c'est le stress à long terme, c'est vraiment une très mauvaise chose. C'est toxique, exactement. Mmh. Ça ne provoque pas l'Alzheimer, mais ça provoque la dépression qui, elle, peut, dans certains cas, majorer les effets de l'Alzheimer assez rapidement.
Et donc, est-ce que vous donneriez, vous, comme secret ou prescription aux gens les gens qui veulent vivre jusqu'à 100 ans, par exemple? À la lecture, à la lumière de ce livre.
À la lumière de ce livre. Et en général, la lumière de la médecine, parce que c'est vrai que ce qu'il dit, c'est assez juste, c'est vrai, c'est d'abord commencer par manger 30% en moins.
Ah oui.
Ça correspond pratiquement à un repas. Et en fait, c'est ce qu'on a dit déjà plusieurs fois, c'est qu'en fait, c'est la satiété qui compte. C'est quand on mange, il faut s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Et c'est à chaque fois pareil. Et c'est comme ça qu'on garde un poids constant. Mm. Il ne faut pas se remplir l'estomac en se disant « il faut que j'ai le ventre bien plein », etc.
Ensuite, mais même pour les gens qui n'ont pas de surpoids?
Pardon? Même pour les gens qui
ont... Pour les gens qui n'ont pas de surpoids?
Même pour les gens qui n'ont pas de surpoids. Tout à fait. On peut manger à ce moment-là quand on a faim, vraiment faim, mais il ne faut pas manger forcément plus parce qu'on est à un repas.
OK.
C'est ça l'idée, principalement.
Donc, bientôt, on va faire une chronique sur les Weight Watchers.
Pourquoi pas?
Le sentiment de satiété, c'est dur à reconnaître.
C'est dur à reconnaître parce qu'on a oublié dès l'enfance, on ne l'a pas appris.
Mais non.
On l'a oublié, on l'a désappris même.
Oui. Alors, je rappelle le titre du livre, La longévité expliquée et démystifiée par le docteur Jude Poirier. un Canadien. On aime bien ça, nous qui sommes sur le réseau national. Et c'est disponible aux éditions Tricaré. Merci.
Ta tête te penche vers l'avant, tes pieds dans un sable mouvant. Comme si tes yeux s'étaient éteints mille ans avant leur temps. Tu restes la bouche grande ouverte face au vent. Ton anniversaire ne peut pas se fêter un jour comme celui-là. Ta rebours se fera notre jour à notre mois. Mais tu ne dois pas t'en faire. Si le bonheur ne veut pas de toi, si chaque fois que tu ouvres les bras, tout semble s'écrouler autour de toi. Non, tu ne dois pas t'en faire. Justice tôt ou tard se fera. Puis un jour le soleil rebrillera pour toi. Sable mouvant, comme si tes yeux s'étaient éteints mille ans avant leur temps. Tu restes la bouche grande ouverte face au vent.
Nous allons recevoir Stéphanie Taillon et Catherine Kess, qui sont respectivement directrices générales et agentes de communication de l'organisme Équilibre. Nous sommes en présence de Judith Lussier. Bonjour.
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 Alors, l'Équilibre, c'est quelle est la mission de Équilibre?
Mais en fait, Équilibre, c'est un organisme qui vise à réduire les problèmes liés au poids et à l'image corporelle dans la population. Par le fait même, on réalise différents programmes d'intervention, de formation et de campagnes de sensibilisation. Donc, voilà.
Et vous intervenez par quel biais?
En fait, à travers différentes formes. Premièrement, on a des programmes d'intervention, dont Bien dans sa tête, bien dans sa peau, qui visent le développement d'une image corporelle positive et l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes. Donc, on a des ateliers au primaire et au secondaire. Donc, à travers les intervenants psychosociaux, c'est comme ça qu'on peut atteindre les professeurs, les jeunes. On a des campagnes de sensibilisation, dont le prix Imagine qui se déroule actuellement. On a la célébration le 30 mai pour qui invite les jeunes et les adultes à remettre en question le modèle unique de beauté pour voter en faveur d'initiatives qui vont en fait en faveur de la diversité corporelle. On a la Journée internationale sans diète qui vient de se terminer le 6 mai, mais qu'on fait une petite campagne tout au mois de mai pour aborder l'inefficacité des régimes amaigrissants et les pièges de privation.
Très bien.
Pour miser sur autre chose. Et la Journée sans maquillage qu'on vous parlera éventuellement.
Ah oui.
Et la semaine Le poids sans commentaire au mois de novembre, qui vraiment invite la population à prendre conscience des impacts négatifs des commentaires sur le poids dans notre quotidien. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec le grand public, puis plus spécifiquement avec les intervenants auprès des jeunes.
Donc, c'est intéressant, le poids sans commentaire, parce que souvent, oui, on va avoir le réflexe de pas commenter l'apparence physique des personnes en surpoids. Mais on se gêne pas. Hein? Quand on est devant quelqu'un qui est mince ou maigre, on va dire « Hi, t'es donc bien maigre!
Ouais, »
Ça
exactement.
A des effets tout aussi dévastateurs, c'est tout aussi désagréable, j'ai l'impression.
Totalement, totalement. Puis, en fait, c'est de toujours mettre l'emphase sur l'apparence physique et le poids aussi, mais aussi l'apparence physique comme on va voir dans la journée sans maquillage. Donc, oui, effectivement, ça n'a pas nécessairement un lien avec le surpoids. Là. On devrait pas passer. Oui.
Si je peux ajouter un petit quelque chose, souvent, oui, on pense au poids, on va parler au surpoids. Il y a aussi le sous-poids, mais le fait de valoriser toujours une perte de poids, ça envoie un message clair aux gens. Bon, je me fais valoriser aujourd'hui, j'ai perdu du poids, et dans un an, si j'ai repris le poids perdu, ben là, le commentaire qui suivra sera très différent. Donc, c'est il faut faire très attention de ne pas valoriser les pertes de poids parce que des fois, ça peut être pour un problème de santé,
ben,
un problème
externe. Ça, c'est très intéressant parce que justement, je disais tout à l'heure que pendant ma dépression, moi, j'ai perdu 30 livres et j'ai reçu tellement de commentaires positifs sur mon apparence alors que je voulais mourir en dedans.
Exact.
C'est incroyable.
C'est le meilleur exemple, oui.
Puis après ça, je deviens anxieuse de reprendre ce poids-là parce que là, ça ne m'aide pas à me rétablir.
Non, mais la perception des gens, oui, je comprends.
Quand vous parlez de
journée... Oui, allez-y.
Excusez-moi. Quand vous parlez de journée pour ne pas faire de diète ou du moins contre les diètes, qu'est-ce que vous proposez justement? Quelle est votre attitude devant cette chose-là?
Mais en fait, cette année, est-ce que tu veux y aller, Catherine?
Ah, ben,
je peux y aller, oui, cette année. Donc, cette année, le thème, c'était vraiment de faire attention au régime, puis que le régime, c'est pas nécessairement des régimes populaires, donc c'est vraiment de pas s'imposer de règles au quotidien par rapport à ce qu'on mange ou à l'exercice qu'on devrait faire. Donc, c'est vraiment c'était vraiment d'aider les gens à réfléchir sur les règles qu'ils peuvent s'imposer pour contrôler leur poids. On a fait des capsules vidéo, des ateliers, donc avec des experts pour vraiment expliquer que des fois, tu sais, de se dire, oh, faut vraiment que je mange à midi, faut vraiment que je mange à 5 heures, c'est des règles qu'on s'impose, c'est une façon de réglementer, de régimenter notre alimentation qui peut nous mettre beaucoup de pression, beaucoup de stress, qui revient toujours à ne pas développer une relation positive avec la nourriture, ce que nous, on prône.
Et je voudrais dire, c'est sur équilibre.ca qu'on peut voir ces capsules?
Oui, exactement, équilibre.ca, barre oblique, sans diète.
Exactement. Et continuer sur ce que Stéphanie disait cette année, on a voulu mettre l'accent non pas sur les régimes, mais plutôt sur le fait que la population on invite la population à retrouver leur équilibre en se laissant guider par les signaux que leur corps leur envoie et parce qu'ils leur procure du bien-être. Souvent, on cherche dans les livres, sur Internet, comment je dois m'alimenter, quel régime je dois faire. On oublie souvent que le meilleur outil pour nous dire quoi
c'est
manger,
la satiété.
Comment manger, c'est le corps. Le corps va nous envoyer un petit signal. Ah, j'ai un petit gargouillis, ça veut dire que j'ai faim. Ah, je me sens un peu plus rempli, ça veut dire que j'ai assez mangé. Mais les gens, après avoir fait tant de régimes, de toutes les informations qu'on trouve partout sur Internet, on oublie ça, que le principal acteur,
on est tout à fait d'accord.
C'est lui qui peut nous dire les bonnes choses à manger, dans quelle quantité.
Tout à fait. C'est la notion de la satiété qui normalement devrait dire quand il faut manger ou pas.
Exact.
Ouais. Et la journée sans maquillage? De quoi s'agit-il?
Bien sûr. La journée sans maquillage. En fait, pour la petite histoire, la journée sans maquillage au Québec, la journée sans maquillage a été initiée en 2009 par Canal Vie et Elle Québec. Et depuis 2015, c'est Philippe qui porte fièrement cette journée au Québec. La journée, ça va être le 6 juin prochain. L'objectif derrière la journée sans maquillage, je pense que c'est important de le mettre de l'avant, c'est pas de dire aux gens de mettre définitivement tout leur maquillage, pinceau, cosmétique de beauté, puis de plus jamais se maquiller. Non, c'est plutôt de se questionner pendant une journée, individuellement, mais aussi comme société, à l'importance qu'on accorde à l'apparence et au modèle de beauté qui est véhiculé. Donc, c'est vraiment un prétexte, la journée sans maquillage, pour qu'on se questionne, moi, est-ce que j'accorde trop d'importance à mon apparence? Est-ce que ça a un impact sur mon bien-être, sur mon bonheur? Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, et cette année encore plus, qu'on veut mettre de l'avant cette journée-là.
Oui, c'est-à-dire que c'est une journée d'action contre le diktat de l'esthétique.
Ben, on en revient comme au poil, hein, poils, qui étaient, en fait, c'est un moment de réflexion sur pourquoi on fait ça, pourquoi on s'impose ça, ou pourquoi, peut-être que c'est parce que ça nous fait plaisir, puis c'est bien correct aussi, mais c'est de remettre en question ça.
Oui. En plus, ça permet à la peau de se reposer un petit peu.
Oui, exactement.
En étant pas esthéticienne, je ne peux pas vous dire les bienfaits de ce côté-là, mais je peux vous dire par contre les bienfaits sur quelqu'un qui vraiment qu'une journée se permet de ne pas porter de maquillage, puis plus dire ah ben je me sens bien aujourd'hui, ah j'ai pas porté de maquillage aujourd'hui, puis je suis peut-être un peu plus gênée de sortir de chez moi. Ben là, c'est le bon moment de se poser des questions, de dire ah mais pourquoi je suis gênée de sortir de chez moi? Est-ce que c'est un uniforme que j'applique à chaque jour ou au contraire c'est quelque chose pour me faire plaisir?
C'est ça, exactement. Donc, on peut rejoindre toutes vos capsules et retrouver votre site équilibre.ca. Vous m'avez dit slash?
Oui, en fait, notre site général équilibre.ca, et par la suite, pour toutes nos campagnes, on a différentes campagnes qui s'insèrent. Donc, pour la Journée internationale sans diète, c'est équilibre.ca. /sans-diète, sinon pour la sans-maquillage, equilibre.ca/sans-maquillage. Mais ce qu'on peut dire à tous vos auditeurs, c'est d'aller sur equilibre.ca qu'ils vont pouvoir retrouver l'étendue de nos ressources.
Merci
et notre
beaucoup.
Page Facebook pour la journée sans maquillage.
Merci beaucoup Stéphanie Taillon et Catherine Kess, donc directrice générale et agente de communication de l'organisme Équilibre. Merci infiniment.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils à terre et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Je dis, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans cette émission?
Mais de voir que, en fait, les enjeux de santé mentale touchent énormément de gens, mais particulièrement les personnes vulnérables. On a parlé des Autochtones, on a parlé des minorités sexuelles et de genre. Je suis contente que vous ayez abordé ces enjeux-là parce que c'est vraiment, ce sont des sujets qui me touchent.
Je vous invite maintenant à poser une question que vous n'avez jamais osé poser à un médecin, donc en l'occurrence, docteur Baruel qui est avec nous.
Oui, en fait, moi j'ai une conjointe qui souffre un petit peu d'hypochondrie et j'aimerais savoir comment gérer ces crises d'hypochondrie là, quand elle devient là, persuadée là, qu'elle a le cancer du cerveau ou qu'elle va mourir demain d'une crise cardiaque.
Il y a plusieurs choses à faire. C'est quand tu as un cancer du cerveau qui est immédiat, là, quand même, ça fait. C'est un petit peu le cancer express, ça, c'est quand même pas très fréquent. Surtout si c'est une douleur, un mal de tête. Enfin, bref. De toute façon, c'est surtout. Il faut les prendre un petit peu au sérieux au départ. Il faut essayer de leur expliquer qu'ils n'ont pas grand-chose, qu'ils n'ont pas forcément quelque chose. Il faut qu'ils les mettent devant la réalité et devant le bon sens. Et puis, ensuite, il faut faire un travail de psychothérapie.
Pas moi, là, mais elle.
Et, ouais, voilà, c'est ça, elle. Mais bon, en fait, c'est souvent une angoisse de mort, hein, de toute façon. Donc derrière, il y a quelque chose de très lourd. Donc il vaut mieux chercher, essayer de creuser pour savoir pourquoi on a peur de mourir à ce point-là. C'est quelque chose de pathologique. Donc il faut le chercher. Savoir, ça remonte parfois très, très loin. Donc une psychothérapie, ça peut aller. Une thérapie cognitive et comportementale aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi les faire se promener, faire des choses un peu tristes, parfois même un cimetière ou autre chose, hein, des choses comme ça. Ça se fait, c'est ce qu'on fait. C'est pas ce que je ferais en premier, mais bon. Et puis, il ne faut pas hésiter à donner quand même des anxiolytiques au départ.
Ah oui.
Quand il y a des crises vraiment violentes ou quand il y a des crises répétitives, il vaut mieux donner des anxiolytiques qui vont couper cette angoisse, cette angoisse de mort.
Est-ce qu'il faut l'interdire de googler ses symptômes?
Ah oui, ça c'est ça. Interdire, on peut jamais.
Je ne suis pas sûre parce que des fois, ça. Excusez-moi.
On a une hypochondriaque ici qui
me dit. Non, je ne suis pas. Entre autres.
Mais l'hypochondriaque, il va chercher ce qui lui plaît.
Oui,
ah ouais.
Et c'est ça le problème, c'est qu'il va aller au pire. Donc,
je ne l'interdis pas, mais je lui dis, tu ne fais pas du bien, là.
Ben non. Bien sûr.
En ce moment.
Mais bien sûr.
Elle dit, non, mais des fois, ça me rassure, mais des fois, ça te rassure.
C'est pire.
Pas.
Parce que les gens disent des choses sur les blogs, puis on le prend personnel. Mais quand on parle au médecin, le médecin dit, ben voyons. En fait, la seule chose, docteur Baruel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la seule personne à qui on doit avouer nos mal-être, c'est seulement au docteur? Parce qu'on dit plein de choses sur les blogs.
Bien sûr. Si on se tient au blog. On dit toujours, il y a énormément de bêtises sur les blogs. Il faut se méfier des blogs, mais vraiment
on
énormément.
On a toutes les maladies sur les... On peut justifier n'importe quelle maladie sur les blogs.
On trouve n'importe quoi. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai cancer. Mal dans le dos, crac, j'ai un cancer du pancréas. C'est tout de suite.
Il reste trois jours à
vivre. J'ai un conseil pour toi, OK? Alors, on va régler le problème tout de suite de ton ami. On va donner le cellulaire du docteur Baruel.
Elle serait tellement contente.
En fait, la seule solution, c'est réellement de leur faire prendre conscience qu'il n'y a réellement pas de risque. Et d'essayer de retrouver pourquoi.
Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'autorité. On va me dire, ouais, mais toi, tu ne sais pas, tu n'es pas médecin.
Oui, mais c'est ça, voilà. Mais en fait...
Donc, c'est seulement le médecin, c'est une bonne question.
C'est seulement le médecin
qui peut nous mettre un peu de plomb dans la tête lorsqu'on part.
De toute façon, il faut que ce soit un tiers.
Un tiers de quoi?
Un tiers, c'est-à-dire une autre personne. Troisième personne.
Parce que c'est, à un moment donné, nos émotions partent en vrille et on ne peut plus on peut plus revenir sur terre.
Ben non, bien sûr.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Ben dans ce cas-là, il faut demander à un proche ou demander à
son médecin. Mais le
proche
vient de le dire.
Oui, mais c'est ça, dans le fond, ça revient à proche... Premièrement, il faut que je l'écoute, sans la prendre au sérieux, puis que je la dirige vers des techniques de méditation,
tout
de
à
relaxation.
Fait. Tout à fait. Exactement.
Parce que c'est de l'anxiété, en fait.
C'est de l'anxiété qui peut tourner en panique.
Oui.
Alors, en parlant de ces questions, n'oubliez pas que, gens du public, vous pouvez nous adresser des questions santé par courriel à canalem@commercialvusezvoix.com ou même par le biais des réseaux sociaux.
Alors, merci beaucoup, Judith Toussier.
C'est un plaisir.
Claudine Rivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, on la remercie, ainsi que tous les autres invités comme Pamela Dupont, organisatrice en chef de Mes Poils, et Marie-Ève Coton, ethnopsychiatre, sans oublier Stéphanie Taillon et Catherine Kess de l'organisme Équilibre.
Cette émission n'aurait pas été possible sans Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications et Catherine Bourderon et Benoît Rassette à la recherche et à la réalisation.
Qu'on se le dise, être femme et être comme on veut dans sa peau, c'est bon pour la santé. Ici Catherine Bourderon
et Dr François Baruel.
C'est bon pour la santé.